Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver nombreux pour cette édition du journal sur Radio Kapi. Je suis Gisèle Cage et voici le titre. La situation sécuritaire se détériore alors que les FARDC et leurs alliés luttent pour contenir l'avancée ennemie sur les axes Kibumba et Sake. Sur demande de la RDC, ce dimanche à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour discuter de la crise à l'est du pays. Après des violents affrontements entre les communautés Teke et Bananou à Bolobo, le calme est revenu. L'armée et la police dépêchées sur place ont récupéré des armes à feu et des armes blanches auprès des civils. L'Office national de transport ONATRA annonce la reprise imminente du trafic du train urbain à Kinshasa, ce qui pourrait réduire les embouteillages. Selon le directeur du chemin de fer urbain, Georges Fouki, demande aux habitants ayant construit près des rails de déguerpir. Il est notre invité. Ce journal commence par le Nord Kivu, où la situation sécuritaire se détériore en raison des combats entre les forces armées de la RDC et leurs alliés contre le rebelle du M23 AFC. Ce dimanche, de violents affrontements se poursuivent sur les axes Sake et Kibumba autour de Goma. Bernard Denyangui nous fait le point.
Depuis 4h du matin, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues autour de la ville de Goma. Des sources contactées ce matin indiquent que les combats opposant l'armée congolaise et ses alliés au M23 sont localisés au niveau de Kanyamaoro, près de Kanyaruchinya, groupement de Kibati, sur l'axe Kibumba. Un deuxième front existe vers l'est de Munigi, entre les bornes frontières numéro 12 et 13, sur la frontière avec le Rwanda en territoire de Nyiragongo. Des détonations sont perceptibles autour de la zone sensible de l'aéroport de Goma. Les hostilités ont paniqué les habitants de Munigi ainsi que les déplacés des sites de Kanyaruchinya, les forçant à vider la zone. Sur un autre front, à l'ouest, les combats se poursuivent toujours entre Kasenge Zinzulo et Mubambiro, près de Sake. Après leur avancée qui a atteint les abords de la barrière de Mubambiro hier samedi, les FARDC et leurs alliés poursuivent des tentatives de déloger les rebelles M23 de la cité de Sake, que ces derniers occupent toujours depuis plusieurs jours. Pour rappel, c'est depuis jeudi que des combats s'intensifient autour de Sake et Kibumba. Dans un communiqué officiel rendu public hier samedi, l'armée sud-africaine alliée au FARDC regrette avoir perdu jeudi et vendredi 9 de ses éléments dans ce combat. Goma, Bernard Dinyangui, Radio Kapi.
En lien avec le combat au Nord Kivu, tous les sites de déplacés à Kibati et Munigi dans le territoire de Nyiragongo se sont vidés ce dimanche matin. Les affrontements entre le rebelle du M23 et les forces armées congolaises et leurs alliés se rapprochent de la zone. Le président de déplacés plaide pour un élan de solidarité envers ses habitants contraints de fuir à nouveau. Théo Moussekoura, dans ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
Ici, la situation se détériore. Tous les déplacés, pris de panique, fuient à présent car les crépitements des balles sont intenses. Là, ils jugent bon de se diriger vers Goma. Tout Kanyaruchinya se vide vers Goma. Je demande aux ONG humanitaires et notre gouvernement de nous entraider pour orienter les déplacés, les réinstaller dans les écoles, dans les églises, pour leur éviter des accidents ou perdre les enfants. C'est celle-ci la situation de Kanyaruchinya ce dimanche matin.
Sachez aussi que 9 soldats de l'armée sud-africaine ont perdu la vie lors des affrontements contre le rebelle du M23 dans la province du Nord Kivu le 23 et 24 janvier. C'est ce qu'indique un communiqué de l'armée sud-africaine publié ce samedi grâce à Mzati.
Parmi les victimes, 7 faisaient partie du contingent sud-africain déployé en décembre 2023 dans le cadre de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI-RDC. Les 2 autres servaient comme casque bleu au sein de la MONUSCO. Ces pertes ont été enregistrées alors que les forces sud-africaines et leurs alliés contraient une attaque des rebelles du M23. Ces groupes armés, soutenus par le Rwanda, tentaient de s'emparer de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Plusieurs soldats sud-africains ont également été blessés au cours de ces affrontements, même si leur nombre n'est pas encore formellement connu, précise le communiqué de l'armée sud-africaine. Le bilan jusqu'ici fait état de 13 soldats étrangers dont deux casquets bleus qui ont perdu la vie ces derniers jours dans ces combats contre le M23. Outre les 9 Sud-Africains, figurent 3 Malawites et un Uruguayen, affirment leurs armées nationales.
L'actualité, c'est aussi cette réaction du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, face à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié le 25 janvier, il déplore l'escalade de la violence qui compromet les efforts de paix de dirigeants régionaux. Il soutient fermement ces efforts, les considérant comme la seule solution pour résoudre les tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu'entre le gouvernement congolais et son opposition politique militaire. En réaction, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, a regretté que l'Union africaine, qui parraine la médiation angolaise et la présence de la SAMI-RDC, réagisse après d'autres institutions. Il a critiqué Moussa Faki Mahamat pour avoir qualifié le M23 de mouvement politico-militaire, ajoutant à la confusion. Suivez Patrick Muyaya dans ses propos recueillis par Blaise Chindani.
D'abord, c'est très regrettable de la part du président de la Commission de l'Union africaine qui réagit en retard dans un contexte où l'Union africaine, je rappelle, c'est elle qui parraine la médiation portée par le président angolais, João Lourenço. C'est aussi elle qui parraine la présence de la SAMI-RDC ici. L'Union africaine réagit après l'Union européenne et d'autres institutions. C'est regrettable. Et lorsque vous décidez de sortir du silence, vous revenez pour semer la confusion. À quel moment ces mouvements terroristes s'est elle-même présentée comme une opposition politico-militaire? Je ne suis pas à la place de ma collègue des affaires étrangères, mais ça, c'est déjà indicatif. Lorsque vous vous trompez sur les diagnostics, lorsque vous n'êtes pas en mesure de reconnaître la terreur d'un mouvement qui s'en prend au casque bleu, les crimes de guerre, qui s'emploie aux soldats qui sont envoyés dans les cadres d'une mission mandatée par l'Union africaine, il y a véritablement un problème.
Comme annoncé dans le titre, la session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sollicitée par le gouvernement congolais se tient ce dimanche à 10h heure de New York et 16h heure de Kinshasa. Cette session abordera l'aggravation de la situation à l'est de la RDC. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner interviendra pour exiger une action concrète en vertu du chapitre 7 et des sanctions contre le Rwanda. Au lieu de simples déclarations, Zénon Mukongo, ambassadeur de la RDC à l'ONU, en parle dans cet extrait. Il a été joint au téléphone par Billy Yvan Lutumba.
Grâce à la dextérité de Madame la ministre des Affaires étrangères, nous avons mené un balai diplomatique auprès de 5 membres permanents du Conseil de sécurité, des pays contributeurs de troupes, ainsi que de ce qu'on appelle ici les A3+. Ce sera une réunion publique parce que la bataille a porté notamment sur ce format-là. La discussion a été âpre. Il y en a qui avaient considéré qu'il fallait tout simplement une réunion derrière les rideaux, c'est-à-dire une réunion privée. Mais Madame la ministre d'État a fait comprendre que ça ne profiterait pas. Notre démarche vise à mettre sur la place publique le drame que vivent les populations de l'Est afin de pousser le Conseil de sécurité à franchir le cap des simples déclarations pour prendre une véritable action en vertu du chapitre 7 de la Charte. Devez savoir que depuis que cette guerre a commencé, il n'y a pas eu de condamnation ouverte du Rwanda par le Conseil de sécurité, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a rien du tout, il n'y a que des déclarations, et nous voulons que nous puissions passer l'étape de simples déclarations pour aboutir à une véritable condamnation du Rwanda. Voilà, c'est l'objectif. Nous pensons que si les gens sont sérieux, on pourra l'atteindre. Alors, en dehors de cela, il faut savoir que la ville de Goma est asphyxiée. Il faut faire en sorte que les couloirs soient dégagés pour permettre l'approvisionnement de la ville et que la population respire parce que la situation est plus qu'explosive.
Le calme est enfin rétabli à Bolobo, chef-lieu du territoire éponyme, après de violents affrontements vendredi entre les communautés Teke et Bananou dans la province du Maïndombé. Ces tensions causées par la contestation de l'installation d'un chef de terre Teke ont entraîné des morts et des blessés parmi les Bananou, selon le gouverneur Lebon Koso Kevani. Les services de sécurité ont récupéré des armes de calibre 12 et des armes blanches. Irène Boma-Luzolo, notre permanente dans la région, nous en dit plus.
Ces affrontements sont survenus à la suite de l'installation d'un chef de terre Teke dans la cité de Bolobo, installation contestée par une partie de la communauté Banounou. Bilan, un mort et 4 blessés graves rapportent plusieurs sources. Le chef de la chefferie de Bateke Nord, Bongoubou Cyprien, attribue cette tension aux partisans du député national Etibako Edindiko de la communauté Banounou, qu'il qualifie des principaux opposants à cette installation. Il déclare que Bolobo se trouve dans la chefferie de Bateke Nord et la résistance du peuple Nounou à la dite installation est non fondée. En réaction, le député national pointé du doigt parle de la manipulation des autres politiciens et rejette en bloc toutes les allégations portées contre lui dans cette affaire. Pour le moment, le calme est revenu à Bolobo, affirme le gouverneur de la province du Maïndombe, Nkoso Kevani. Cela grâce à l'intervention des FARDC et de la police qui ont récupéré les fusils calibre 12 et les armes blanches utilisées lors de ces troubles. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation appelle les populations de l'Ituri et tous les Congolais à s'unir pour préserver la souveraineté nationale et à cesser la violence dans leur communauté pour instaurer une paix durable. Jean-Dédieu Désiré Ntanga Ntita a lancé cet appel samedi à son arrivée à Bunia où il est venu suivre le processus de désarmement et de démobilisation. Mobilisation des miliciens lancée il y a quelques semaines dans les territoires de Djougou. Écoutons un extrait de son message choisi par Sadiki Aboubakar.
Nous sommes là d'abord pour la prise de contact avec toutes les parties prenantes, dont les autorités locales, avec en tête son Excellence, c'est le gouverneur de province. Mais au-delà de ça, il y a un volet important de notre travail qui concerne l'engagement de discussion et de travail avec les groupes armés. Et vous avez suivi il y a quelques jours, on a eu un engouement sans précédent dans l'Ituri, avec plus de 85 armes de guerre qu'ils ont déposées volontairement pour rejoindre le processus de paix. Je suis venu avec un message de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Nous travaillons ensemble pour le même objectif. Nous avons une souveraineté nationale à préserver. Pour que cela devienne une réalité, nous avons notre responsabilité, nous comme Congolais. Nous devons arrêter de nous entretuer, nous devons arrêter de continuer à perpétrer la violence dans nos communautés. Comme ça, on va créer les conditions pour que on puisse véritablement vivre en paix dans notre pays.
Durant son séjour en Ituri, Jean-Dédieu Désiré Ntanga Ntita s'y rendra notamment dans les territoires de Djougou, où le processus de désarmement de miliciens Zaïre a été lancé. Province du Haut-Katanga, le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales a officiellement remis vendredi 24 janvier le clé de 26 bâtiments construits et équipés au directeur provincial du Fonds national de promotion et de services sociaux du Haut-Katanga. La cérémonie a eu lieu au village Mutumpeke, dans les territoires de Kipushi, à environ 70 km de Lubumbashi. Ces infrastructures font partie du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Ce projet du gouvernement congolais, financé par la Banque africaine de développement BAD, vise à sortir les enfants des carrières et de sites miniers où le cobalt est exploité. Jean Gandou, reportage.
Ces ouvrages vont servir notamment dans la production des jus, des saucisses, des aliments pour bétail et des céréales. Il y a aussi des salles de classe, des bureaux, des dortoirs et autres. On y trouve également un centre de santé, les porcheries, le poulailler et des étangs pour l'élevage et la production des alevins. Le centre de Mutumpeke compte aussi un marché moderne, un cadre où seront vendus les biens qui seront produits dans ce centre, où sont attendus les enfants sortis des carrières et sites miniers de production de cobalt dans le Haut-Katanga. Le ministre provincial des Affaires sociales en donne aussi d'autres détails. Joseph Sambibulanda.
Ce grand centre est un site de formation des bénéficiaires afin de les doter des aptitudes nécessaires à leur reconversion en agro-business avec des projets rentables à court terme.
Le Pabea Cobalt a déjà sorti plus de 13 000 enfants des mines de cobalt, tant du Lualaba que du Haut-Katanga. Ces enfants ont retrouvé les circuits scolaires et bénéficient de la prise en charge sanitaire, psychosociale et de l'enregistrement à l'état civil. Notons que ce projet est exécuté par le Fonds national des promotions et des services sociaux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale. L'armée israélienne a ouvert le feu dimanche 26 janvier sur des habitants du sud du Liban qui tentaient de revenir dans leur village par centaines, faisant 11 morts et 83 blessés selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé. D'après le ministère, les agressions de l'ennemi israélien contre des citoyens qui tentaient de revenir dans leur village encore sous occupation ont fait 11 morts, dont un soldat de l'armée libanaise et deux femmes, ainsi que 83 blessés. Le ministère avait fait état de 3 morts dans un précédent bilan.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Georges Fouquet, directeur du chemin de fer urbain à l'Office national de transport ONATRA. Nous discutons de la reprise du trafic du train urbain à Kinshasa. Georges Fouquet lance un avertissement clair. Ceux qui ont construit sur ou près des rails devront déguerpir sans délai. Il affirme avec conviction que la solution aux embouteillages de Kinshasa réside dans le service de l'ONATRA. Ne manquez pas cet entretien exclusif avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur le directeur des chemins de fer urbains, Georges Fouquet, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous, monsieur, quel état des lieux dressez-vous au chemin de fer urbain dont vous êtes le directeur?
L'état des lieux, pour le moment, c'était vraiment catastrophique, mais pour le moment, nous sommes en train de réhabiliter le chemin de fer par rapport à la demande du chef de l'État. Nous réhabilitons la voie aéro, nous avons déjà avancé. Nous réhabilitons la voie gare centrale Kitambo. On a déjà commencé à la gare de Kitambo. Quand vous allez là-bas, vous verrez, les travaux sont déjà là. Donc, l'état des lieux, pour le moment, s'avance.
Parlons maintenant de la reprise du trafic urbain. Est-ce que la demande de l'ONATRA de faire déguerpir la population riveraine des rails est-elle réaliste?
Nous ne demandons pas à ces gens-là de quitter, mais nous demandons à ces gens-là de libérer notre voie ferrée. Parce que ce n'est pas les locataires de l'ONATRA. Nous avons réhabilité, nous sommes dit, nous recommençons notre voie. Donc on doit faire les trains sur cette voie-là. Tout celui qui a construit sa maison sur la voie, lui-même il est conscient. Donc quand le train arrive, nous annonçons seulement que, messieurs, préparez-vous de quitter. Avant qu'on aille là-bas, on va les préaviser comme dans tous les états normaux.
Au cas où ils opposeraient une résistance, que ferait l'ONATRA?
Il ne peut pas résister, il ne peut pas s'opposer parce que là, il s'oppose avec l'état congolais. La terre et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Cette voie-là, c'était la voie de train urbain pour l'État congolais. Donc, s'il est fort contre l'État congolais, là, il reste. Hein, mais je sais que tout le monde est sous la loi. Il doit respecter la loi congolaise.
Monsieur le directeur, la plupart des occupants de ces espaces demandent un soutien financier ou un autre espace pour lotir. Qu'est-ce que l'ONATRA pense de cette proposition?
L'ONATRA n'a pas de contrat avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des envahisseurs, des squatters. Alors, c'est lui-même qui a squatté, qui est venu sur la voie, et que l'ONATRA ne connaisse même pas son dossier. Peut-être, c'est l'État congolais qui va s'en charger, pas l'ONATRA. Donc, l'État congolais, le propriétaire de cette entreprise, qui va s'en charger.
Oui, à vous entendre, les travaux ont déjà commencé, mais est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le directeur, à quel moment peut intervenir les travaux et comment cela se prépare?
Nous avons déjà commencé. Vous pouvez descendre sur le terrain. Au moment que je vous parle, je descends pour la gare Kines jusqu'à l'aéroport. Je descends maintenant avec la résine. Donc nous avons déjà commencé. C'est lui qui s'occupe de ce terrain-là. C'est lui qui est riverain, qui n'a pas respecté la distance de la voie par rapport à nos instructions. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais nous sommes déjà avancés. Je ne peux pas vous donner quand est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va dire. Mais nous sommes en train d'avancer.
Ok, et ces travaux vont durer combien de temps?
D'ici là, d'ici des mois, nous serons à la gare de Tchenke. On va virer la locomotive pour la clientèle congolaise.
À quand la reprise des trains centre-ville-aéroport, centre-ville Kitambo-magasin, comme vous avez promis?
Pour la gare de Kitambo, nous sommes en train d'abord de construire les ponts qu'on avait cassés, le pont Bralima là. Dès qu'on on termine ces ponts-là, directement nous sommes là. Donc le temps, ce sont les ingénieurs qui vont nous dire quand est-ce qu'ils vont terminer la construction de ces ponts. Pour l'aéroport, comme je viens de vous dire, on est déjà avancé. Pour les trains Irubé-Kasangoulou, chaque jour, d'ailleurs, on fait 6 tours par jour pour essayer de dégager la population congolaise qui souffre pour le transport.
Parce que les embouteillages, ils sont monstres, les gens comptent sur l'ONATA. Est-ce que vous avez vraiment des voitures en bon état qui vont desservir la ville de Kinshasa et même Kasangoulou?
La direction générale s'est préparée déjà. Au moment que je parle, nous avons plus ou moins 6 voitures motorisées qui est à Matadi déjà. D'ici là, ça va venir ici. Avec ce que nous avons, on va ajouter. Mais il faut que nous demandons que l'État congolais doive ajouter, on doit ajouter plus ou moins 30 voitures encore. À ce moment-là, on va faire même 10 tours par jour. Et puis, l'État va nous aider pour acheter des locomotives. Les voitures, c'est bon. Mais les locomotives coûtent 3 500 000 $ par une locomotive. Si l'État congolais nous aide pour avoir ne plus que 10 locomotives, vous verrez ce qui va se passer, Kitambo, aéroport, et tous ces taxis qui font de n'importe quoi, ils vont déchanter d'eux-mêmes.
Monsieur le directeur de chemin de fer urbain, Georges Fouki, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Georges Fouki s'entretenait avec Blaise Chindani Kambala. C'est ainsi que se termine ce journal sur Radio Okapi. Billy Landry Beto à la mise en onde, de Jacques-Yves Molima à la coordination et Gisèle Cage à la présentation. Merci de nous avoir suivis en grand nombre. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.